Eh bien, bonsoir à tous. Nous avons prié le Seigneur. Merci Jésus de ce que tu nous inspires encore ce soir, afin que nous comprenions comment tu agis, comment tu réagis, et que nous ne nous fassions pas des illusions, mais que nous comprenions bien qui tu es. Tu as dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, son Fils. Seigneur, nous voulons te connaître afin de mieux te servir. Parce que ce que nous voulons, c'est passer notre éternité avec toi, mais pas simplement avec une idée, mais la vérité. Nous voulons te connaître en vérité, en esprit, en vérité. Merci Jésus de nous éclairer encore ce soir. Amen.
Amen.
Je vais reprendre un vieux texte qui avait été donné par Nicolas à nos frères et sœurs. Dans Nombre 12, je commence à faire la lecture. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, « Allez tous les trois à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. » L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. » Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuit se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Voilà, on peut lire tout le texte, je pense que vous connaissez tous. Il y a des choses que nous connaissons par les Saintes Écritures, ça, par exemple, on connaît par les Saintes Écritures, et puis d'autres choses qu'on connaît par l'histoire. Il y avait un homme, un historien juif, qui vivait entre 37 et 100 après Jésus-Christ, c'est-à-dire que, voilà, c'était l'époque, hein, et il était commandant de la Galilée durant la guerre contre les Romains, donc en 70, il était là, voilà. Et puis, il a fini sa vie, il a été finalement, il s'est installé à Rome, et là, il a rédigé les écrits, c'est la guerre des Juifs et les antiquités judaïques. Cet homme, il a un nom, il s'appelle Flavius Joseph, c'est une sommité. On fait souvent référence à lui parce qu'il parle de choses qui confirment que ce qui s'est passé, ce qu'on voit dans la Bible, ça s'est vraiment bien, bel et bien passé. Et dans son écrit, les Antiquités judaïques, au livre 2, parce que c'est une montagne, hein, chapitre 5, paragraphe 63-64, Flavius Joseph écrit que quand Moïse était général de l'armée égyptienne, il a épousé une Éthiopienne. C'était pour faire une alliance politique afin de mettre fin à une guerre. Alors, ce qui apparaît, c'est que les plaintes de Marie et Aaron, et si je dis Marie et Aaron, c'est pas parce que j'ai une culture qui m'oblige à mettre les femmes en premier. Ça, c'est certain. Mais là, c'est parce que c'est stipulé que c'est Marie et Aaron. D'habitude, en général, les hommes sont toujours mis en avant, mais là, non. C'est Marie et Aaron. Donc, ce qui apparaît, c'est que les plaintes de Marie et Aaron étaient que les Éthiopiens étaient des non-juifs, en plus des descendants de Cush. Et ça, c'était l'apparence. C'était ce qu'ils disaient. C'était ce que les autres entendaient. C'était ce qu'il voyait, ça c'était l'apparence. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui démangeait Aaron, enfin disons plutôt Marie et Aaron? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'était la raison réelle de leur plainte? Moi, je crois de tout mon cœur que c'était la jalousie suscitée par le fait que Moïse était le chef spirituel et il était le prophète d'Israël. La réalité cachée était que cette élévation de Moïse suscitait l'envie chez son frère et chez sa frangine, Marie, que Dieu avait pourtant richement doté. Marie était prophétesse, déjà, avant, elle était déjà prophétesse. Hein. Et puis Aaron, c'est ce qui lui était arrivé, je vous ai prêché encore il n'y a pas longtemps à ce sujet, qu'il était prophète et que Moïse tenait place de Dieu pour lui. Dieu les avait placés si haut que, en fait, Marie, elle se distinguait, n'est-ce pas, comme la prophétesse par-dessus toutes les femmes d'Israël, hein. Tandis qu'Aaron, lui, il avait été élevé par son investiture à la haute prêtrise et aux fonctions de chef spirituel de toute la nation. Et ça les gratouillait. L'orgueil naturel de leur cœur ne se satisfaisait pas de ce qu'ils avaient reçu de Dieu, ils en voulaient davantage. Et ils voulaient disputer à leur frère Moïse la prééminence. Vous vous rappelez ce gros bouquin que j'avais acheté, dont on a parlé longtemps, au sujet de la prééminence, ça se trouve dans toute la nature, ça se trouve aussi, même chez les algues, les fourmis, tout ce que vous voulez, c'est toujours ça. Par exemple, le chien, vous croyez qu'il vous aime bien, il vient et met sa patte sur votre pied, c'est parce qu'il veut vous montrer sa prééminence. C'est comme ça, il ne faut pas les laisser faire quand ils mettent leurs pattes sur votre pied, c'est qu'ils veulent vous montrer que c'est eux les chefs. Il faut les remettre à leur place. Et donc, voilà, il voulait disputer à leur frère la prééminence de son appel spécial. Il avait un appel spécial. Et puis, il avait une situation qui était exclusive. Et voilà, c'était comme ça. Et ça les grattait. Il considérait donc comme juste de contester cela. Pour eux, c'était juste de contester cela. Non seulement en qualité de frère et sœur, parce que c'était des frères et sœurs, oui, puis moi, frère, hein, mais aussi parce qu'ils étaient les soutiens les plus directs dans l'appel de Moïse. Ils étaient les soutiens les plus directs. Si vous lisez l'histoire, quand même, il s'est passé beaucoup de choses dans cette famille-là. Marie, elle a été l'instigatrice de la révolte. Nous le voyons parce que son nom vient avant celui d'Aaron. Et vous les connaissez, ces maris qui papotent en faisant la vaisselle, ces maris qui papotent en bricolant et en servant, qui murmurent en accomplissant leurs tâches et qui mettent des mauvaises semences dans le cœur des autres et qui essayent de monter, n'est-ce pas, la tête des gens et le cœur des gens contre le serviteur de Dieu. Il y en a toujours eu partout. C'est pas extraordinaire. Il y en a toujours eu. De nos jours, il y a des membres de l'Église qui tombent dans un piège semblable, qui est un piège grossier. Mais bon, voilà, c'est l'orgueil, c'est aveugle, c'est comme ça. Parce que le Seigneur leur donne en bénédiction un don de l'Esprit, alors ils pensent qu'ils ont une situation égale ou même supérieure à l'autorité qui était établie par Dieu au départ. Ça, c'est comme ça. Mais par contre, ils ne tardent pas à être conduits à l'apostasie s'ils ne s'humilient pas. Mais comme ils sont aveuglés par l'orgueil, etc., ils ne s'en rendent même pas compte. Et ils ne se soumettent pas aux serviteurs de Dieu, appelés à présider, et ça va pour eux de mal en pis. Frères et sœurs, même si le souhait de Moïse leur avait été accordé. Et si toutes les âmes d'Israël avaient reçu le don de prophétie, Moïse aurait quand même été celui que Dieu avait choisi pour présider. C'est comme ça. Parce que Moïse avait souhaité quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait souhaité? Eh bien, on va lire ça dans Nombre 11, 24, 30. Je vais vous le lire. 11, 24, 30. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse et prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent pas allés à la tente. Et ils prophétisaient dans le camp. Le jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Donc il avait eu un souhait. Cela arriva avant les murmures de Marie et Aaron. Vous avez vu, c'est au chapitre 11. Les murmures de Moïse et Aaron, Marie et Aaron, c'est au chapitre 12. Alors, je voulais aussi, dans notre communauté, que chaque frère prêche. Et je souhaitais, on l'a fait. Chaque dimanche, chacun prêchait à la chapelle. On avait dit 5 minutes, après c'est devenu un quart d'heure. Mais enfin bon, on n'allait pas interrompre cette chose, c'était bien. Et bref, c'est très humain tout cela. Je dirais même que c'est très juif, n'est-ce pas, de croire que c'est arrivé. Alors la question c'est celle-ci, pourquoi Marie fut-elle seule punie par la lèpre et pas Aaron? J'avais déjà porté une ébauche de réflexion là-dessus, mais je voudrais approfondir un petit peu là-dessus, parce qu'enfin tous les deux avaient participé à cette révolte. La première raison c'est que Marie qui a remonté le bourrichon à Aaron. Ça, le bourrichon, ça c'est suisse, je ne sais pas si on dit ça en France. En France, ça veut dire Marie, la femme, elle a commencé à ouvrir les yeux de son frangin, Aaron, sur des réalités. Regarde quand même, c'est pas normal. C'est éthiopienne, la mère, ça, faut qu'il se prend. Pourquoi est-ce que ça serait lui le seul et tout. Moi aussi, je prophétise. Elle dit. C'est elle qui a commencé. C'est Marie qui a été l'instigatrice de l'attaque contre le droit de Moïse à la présidence. Par conséquent, son péché était plus grave, puisque c'est elle qui a commencé. Aaron, lui, c'était le gros balourd, pépère, en quelque sorte, le gentil, qui fait pas de mal à une mouche, mais qui s'est laissé monter par la bonne femme. Comme on dit toujours, cherchez la femme. Et ça a commencé avec Ève. Alors, ne venez pas me mettre dans les dents que je suis un misogyne, ne venez pas me dire que je suis un macho, c'est un fait indéniable. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas ma faute, si c'est comme ça. Bon, les deux raisons. La deuxième raison qui fit que la lèpre tomba sur Marie et pas sur Aaron, c'est que chez Aaron, rechercher à diriger la prêtrise, c'était une preuve d'orgueil et d'ambition lourdingue. C'était lourdingue. Par contre, le péché de Marie était d'assumer un poste non seulement par orgueil, mais plus, c'était plus grave, parce que c'était qu'elle voulait installer un ordre contraire au système du gouvernement de Dieu. Dès le commencement, les appels à la prêtrise furent donnés aux hommes. Est-ce qu'on a déjà vu une femme rentrer dans le temple pour offrir un sacrifice? Oh là là, mais Michel, qu'est-ce que tu fais là? Tu deviens un macho, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? Marie pouvait être prophétesse, mais elle ne pouvait pas être prêtre à la place de Moïse. C'est pas possible. C'est pas possible. C'était contre la nature des choses dans le gouvernement de Dieu. Donc la tentative de Marie de parvenir à l'égalité avec Moïse, c'était une infraction grave contre l'ordre institué par Dieu. Alors mes frères et sœurs, n'étudiez pas Nombre 12 sans étudier Nombre 11. On devrait même dire que c'est un chapitre, ça. Ils vont très très bien ensemble. Ces deux histoires ne sont pas deux histoires différentes. Question. Quel événement avait précédé les plaintes à propos de la nourriture? Alors, on va demander à Philippe de nous lire Nombre 11, 1, 3.
Or, le peuple se répandit en plaintes qui arrivèrent aux oreilles du Seigneur. Cela lui déplut. Quand il entendit, sa colère s'enflamma. Le feu du Seigneur s'alluma contre eux et dévora une extrémité du camp. Alors, le peuple cria vers Moïse. Moïse intercéda auprès du Seigneur et le feu s'apaisa. On appela ce lieu Tébéra, c'est-à-dire incendie, car le feu du Seigneur s'y était allumé contre eux.
Voilà. Alors Philippe est excusé parce qu'il n'a pas ses lunettes ce soir. Le peuple. Comment ça a commencé? Le peuple, la populace, les gnagnons. C'est malheureux à dire, mais voilà, ça n'a pas changé dans l'Église de Jésus-Christ. Paul le dit encore, considérez, homme frère, qu'il n'y a pas beaucoup de sages et d'intelligents parmi vous. Parmi les Juifs, il y a aussi des gens bizarres. Puis il n'y avait pas que des Juifs. Vous allez voir au chapitre, verset 4, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu. Il y avait des beaufs, hein, il y avait toutes sortes de gens comme ça, les mécontents. On en connaît, nous aussi, et il y a eu des mécontents dans notre communauté depuis qu'elle existe. En 77, on a commencé, et on a vu quelques mécontents. Quel est le rôle du serviteur de Dieu dans le cas où certains murmurent, rouspètent, et que Dieu punit par un accident de voiture près d'une église, par exemple? Comment? Quel est le rôle du serviteur de Dieu? Bon, Philippe nous l'a lu. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Moïse intercède, le serviteur de Dieu, il intercède et le feu s'arrête. La punition cesse. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Hein, Moïse était très patient, on a vu tout à l'heure, extrêmement patient, plus patient qu'aucun autre homme sur la surface de la terre à l'époque. Est-ce que c'est une bonne chose, finalement? Est-ce que la suite de l'histoire nous montre que le peuple a bien tiré une leçon de cela? Non, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien vu, ils ont vite oublié. On va lire Nombre 11.4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurnicher, hein, à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger, hein? Nous nous souvenons des bons poissons qu'on mangeait en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. » Et des aux, je pense que c'est. Je vois, ça va être de l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Moïse en a eu marre, au point de dire à Dieu, c'est juste après, c'est toi, ô Dieu, qui les a créés. Il dit, et tu veux que moi je les porte tout seul, j'en ai marre. Non, c'est pas moi qui les ai enfantés, je veux plus les porter. Tue-moi plutôt. Vous vous rendez compte à quel point il en avait marre? Tue-moi, j'en ai marre. Mais vous verrez ça, vous lirez, c'est là, verset 15, de chapitre 11. Et Dieu leur envoie des cailles, et ils en ont des cailles. En Nombre 11, 20, c'est dit que... Ils n'en ont pas mangé seulement un jour ou deux, mais un mois entier jusqu'à ce que ça vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Aïe, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Pas seulement parce qu'il a donné sa vie sur la croix, mais son caractère me plaît. Ça leur sortait par les narines, les cailles. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Et pendant qu'ils étaient encore en train de les manger, qu'ils en avaient entre les dents, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre eux. Ça, vous trouvez dans 11, 33, 35. Je ne résiste pas de vous le lire. Comme la chair était, donc des cailles, était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth-Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Voilà. Le peuple méprise Dieu, le peuple méprise les envoyés de Dieu, le peuple méprise tout. C'est comme ça, c'est le peuple. C'est Louis XVI qui disait, c'est bien d'être roi, c'est ce qu'il y a d'embêtant quand on est roi, c'est qu'on a un peuple. Vous savez, regardez l'exemple de la manne, là, on parle, oh, cette pauvre manne, on voit que la manne, on en a marre. C'est les juifs, la populace, la plèbe, c'est ces gens qui râlent, qui rouspètent, qui sont jamais contents, hein, vous jamais contents. Et c'est eux qui ont appelé cette nourriture la manne. C'est pas Dieu qui avait dit ce sera la manne. La manne, ça signifie, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, comme ces gens qui viennent à table, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Dieu leur avait donné, il leur avait donné un vrai nom. Alors c'est Stéphane qui va nous lire. Le vrai nom, c'était quoi? Exode 16, 4.
Alors l'Éternel dit à Moïse, regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire.
Voilà.
Je le mettrai à l'épreuve de la sorte que je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions.
Eh oui. Je vous donnerai du pain. Il n'a pas dit je vous donnerai du qu'est-ce que c'est. Je vous donnerai du pain. Bande de loches, bande de racailles, bande de mal élevés. Le pain descendu du ciel. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ça nous gave. Cette nourriture, c'est quoi? Bande d'ingrats. Le pain du ciel, la nourriture de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette parole? On ne connaît pas, on n'a jamais entendu cette parole. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Exode 16, 15. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est comme ça qu'ils ont dit. Et ça veut dire la manne. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire la manne. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, mais c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Quel sens symbolique voyez-vous dans le fait qu'Israël se lassa du pain du ciel envoyé par Dieu et qu'il fut saisi de convoitise? Nombre 11, 4. C'est écrit. Nombre 11, 4, que le ramassis des gens qui se trouvaient là au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Ils commencèrent, même avec ceux d'Israël, commencèrent à pleurnicher. Là, au queue de là. On n'a pas de viande, qui nous donnera de la viande? Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont lassés comme ça, qu'ils se sont lassés du pain du ciel? Ils ont regretté leur vie d'avant. Ils ont regretté leur vie d'avant. Dans Jean 6, 30, 35, c'est dit. Jean 6, 30, 35. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Et les Juifs se disputèrent entre eux, c'est écrit, hein? Ils se disputèrent entre eux à ce sujet, parce qu'il avait dit, n'est-ce pas, on voit ça au verset 52, là-dessus, les Juifs se disputèrent entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est pas qu'ils ont rouspété contre Jésus, mais même déjà entre eux, hein, rien que déjà entre eux. rouspéter tout le temps. C'est toujours comme ça. Ils sont d'accord pour râler, puis après, chacun de son côté, parce qu'ils se disputent. Il n'y a pas que Dieu qui est toujours le même, n'est-ce pas? Ils sont eux-mêmes aussi toujours les mêmes. C'est comme ça que vous voulez. Bon, Dieu leur donne la viande, Dieu leur donne le pain, mais il répondit aussi à la requête de Moïse. Moïse avait dit, « Oh, j'en peux plus, je ne peux pas, à moi tout seul, porter ce peuple, il est trop pesant pour moi. » Nombre 11, 14. Alors, comment Dieu décida de partager le fardeau de Moïse? Eh bien, on va demander à Dominique de nous lire dans Nombre 11, 16, 17. Vas-y.
« L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. »
Voilà, et puis merci Manon, le verset 24 et 25.
Alors, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas.
Ah, vous voulez prophétiser? Eh bien, voilà. Mais ils ne continuèrent pas. Vous voyez? C'est comme ça. Est-ce que vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi donc Dieu donna-t-il le pouvoir de prophétiser à des gens qui se plaignaient, qui murmuraient? Ils l'ont fait un moment, mais ils ne continuèrent pas. Le sort final, il se trouve dans Nombre 11, 32, 34. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva, ramassa l'écaille. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Et ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma sur le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Et on les a enterrés. Voilà. Ils leur donnent, mais après, ils se mettent en colère pendant qu'ils mangent. Revenons maintenant à Marie et à Aaron. Dans ce contexte direct de ce qui vient de se produire là, il s'en est produit des choses dans le chapitre 11. Hein. Marie avait reçu le don de prophétie avant les 70, là. Dans Exode 15, 20, on trouve ça. Y a-t-il un risque qu'une personne qui ressent le merveilleux don de prophétie se croit soudain égale au pouvoir du prophète qui officie depuis le début? Je réponds même pas. Là, et une autre question, pourquoi? Eh bien, Marie voulait la place de Moïse. Le péché de la prophétesse Marie ne consistait pas à chercher à être semblable à Moïse dans le domaine des dons spirituels, elle avait le don, mais plutôt à chercher à avoir la fonction de celui que Dieu avait placé au début. Quelle leçon à tirer pour l'histoire moderne de l'Église? C'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes mauvais esprits qui se manifestent dans une nouvelle personne. Ça, c'est Osborne qui avait dit. Et Marie fut frappée de lèpre. La racine du mot lèpre, c'est Tsaba ou Tsara, je ne sais plus exactement. Ce qui signifie frapper lourdement. On considérait qu'un lépreux était comme frappé par Dieu. C'est une chose épouvantable. Maintenant, quand on voit, quand on lit la description de ce que c'était qu'un lépreux, un médecin actuel ne dirait pas que ça, c'est la lèpre. Il y a toutes sortes de lèpres, il y a des choses plus ou moins graves. Ça va de la simple tache, il y a plusieurs sortes de lèpre. Nombre 12, 8. Donc là, on voit que comment vous avez fait pour ne pas craindre? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et voilà que Dieu se met en colère. 4 fois en 2 chapitres. On dit, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Père, il est comme ça, mais Jésus, lui, il est doux, gentil. Non, mais attendez, il n'y a pas 2 dieux ou 3, hein, c'est le même. C'est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chapitre 1, 2 chapitres, 4 fois. Chapitre 11, verset 1, colère divine. Chapitre 11, verset 10, colère divine. Chapitre 11, verset 13, nouvelle colère divine. Chapitre 12, verset 9, encore une colère divine. C'est un signe, hein? C'est un signe. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Jésus a été encore plus patient que Moïse. Cependant, il s'est aussi mis en colère. Hein. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps, contre les religieux, mais aussi contre ses disciples, etc. Il en engueulait plus d'un. Mais de quel esprit tu es animé? Enfin voilà, c'était pas. Hein. À rire de moi, Satan, on ne dit pas ça. C'était de la colère. Et à la fin, sur la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, comme Moïse, j'ai prié, j'ai intercédé jusqu'à présent, mais aujourd'hui, je dis, « Père, pardonne-leur s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Par contre, châtie-les s'ils savent ce qu'ils font. » Et j'ai bientôt 66 ans, j'ai visité plus de 70 pays en prêchant l'Évangile. Dieu m'a toujours accompagné. Maintenant, j'ai envie que ça s'arrête. J'ai envie que ça s'arrête. Bien sûr, si Dieu le veut, je ferai encore et encore et encore son œuvre avec joie, malgré tout, jusqu'au bout. Mais comme Paul, ben, on arrive un moment à dire, bon ben voilà, maintenant, la mort m'est un gain. Hein? Comme Moïse, j'en viens à dire, oh Dieu, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, afin que je ne voie pas ce malheur. Nombre 11, 15. Alors on verra bien ce que Dieu va faire. Moi je souhaite que personne ne meure. Eux, ils souhaitent qu'on meure tous avant la fin de l'été. Moi je ne souhaite pas ça. Mais je prie que s'ils savent ce qu'ils font, ils soient châtiés. Et je pense que nous devons nous mettre d'accord là-dessus. Nous n'avons pas à craindre d'être d'accord là-dessus. Dieu est toujours le même. Il ne change pas. Il a repris son peuple combien de fois? On a intercédé, on a prié. Voilà, ça va maintenant. Maintenant, il faut qu'ils comprennent. Et ils vont comprendre. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne prie pas que ce soit grave. Je prie juste que ça soit suffisant pour qu'ils comprennent. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. Mes colères, mais Dieu est pire que moi dans ses colères. Ah oui, mais tes colères ne sont pas justes. Ah bon? Ah bon? Plaidons devant l'Éternel pour savoir. Voilà, mes frères et sœurs. Je vais partir en vacances. Je reviendrai peut-être. J'ai préparé 3 prédications que vous pourrez écouter, qui sont déjà enregistrées, c'est Eric Jacques qui les a. Et je prie pour que vous soyez richement bénis entre vous. Je vous demanderai d'être très sage, de ne répondre à aucune provocation. Ça risque bien de venir. Vous savez, ces petites phrases-là, ting, pour énerver, ne répondez pas. Faites silence devant l'Éternel, faites silence devant toutes ces choses-là. Calme, calme, retirez-vous, allez prier dans votre coin. Laissez Dieu agir. Si on agit nous, on empêche Dieu d'agir. Laissez Dieu agir. Promettez-moi de le faire, afin que je puisse, avec Michou, partir tranquille, en paix, et que nous puissions, si nous devons rentrer, eh bien rentrer, on trouvera la maison toujours debout, avec des grands sourires jusqu'aux oreilles, et que Dieu vous bénisse. Amen. Je te prie, Seigneur, de bénir ces paroles, de bénir aussi tous ceux des frères et sœurs qui écoutent sur Internet et qui sont maintenant bien au courant de ce qui se passe ici. Je te prie, Seigneur Jésus, qu'ils puissent prendre modèle si jamais il y a dans leur Église aussi une division, qu'ils puissent savoir comment ça se passe et qu'ils sachent se mettre du bon côté. Merci, Jésus. Je lisais cet après-midi une chose terrible. Et c'était un triste anniversaire aujourd'hui. J'ai pris la photo de l'article. C'est pas quelque chose de très très glorieux. Ah non, c'est pas ici que je l'ai, c'est sur mon iPad. Je vais essayer de le trouver si j'arrive à me connecter sur Passbook pour vous le lire quand même, parce que c'est pas inintéressant. À qui j'ai envoyé ça? Misère. C'est au sujet de Pétain. C'était l'anniversaire aujourd'hui du vote qui a eu lieu pour élire Pétain, vous savez, en France, pour qu'il révise la Constitution. Eh bien, un vote écrasant en sa faveur. Je crois que sur 600, je ne veux pas mentir, c'est 640 ou 650 personnes, il n'y en a que 80 qui ont voté contre. Et maintenant, tout le monde crie « Pétain, salaud !» et tout. On dirait qu'ils ont tous merveilleusement tout, ils ont tous bien compris. Ouais, mais à l'époque, ils sont tous, la majorité, l'énorme, l'écrasante majorité s'est trompée. Le français est comme ça. C'est triste à dire, mais c'est difficile. Il y a quelque chose dans ce pays, tous les évangéliques le disent, que ce soit les évangéliques, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit les mormons, tout le monde le dit, et même les politiques, tout le monde le dit. Il y a quelque chose en France qui bloque, c'est quand même quelque chose de terrible. C'est ce sacré foutu caractère de gueulard et de trouillard. C'est ça le grand problème. Gueulard et trouillard. C'est-à-dire, sa gueule, ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, d'accord, comme je leur dis, faites-le. Mais ils font quoi? Rien. La trouille. La trouille. Ah oui, mais alors, si arrivé. C'est quoi votre foi? Vous comprenez? Et ça se trouve partout, cet état d'esprit-là. Gueulard, mais trouillard. Frères et sœurs, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit et non pas de cet esprit franchouillard. Il ne faut pas qu'on devienne des franchouillards. Ces espèces de beaufs, là, qui se donnent des allures, mais qui ont c'est là, rien. Alors, soyons forts, soyons fermes, montrons la différence, faisons la différence. Vous vous rappelez quand le prophète Vikram s'est venu ici, il était époustouflé, il a dit, waouh, c'est l'excellence. Parce que nous avons voulu ça dès le départ, l'excellence. Je me rappelle que tu en avais été pour acheter un château, on en avait visité beaucoup. Vous vous rappelez un qu'on avait visité avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, la dame du Rembrandt, là. Voilà, c'était magnifique. D'ailleurs, c'est un Genton qui l'a acheté, ce château aussi. Eh bien, le monsieur qui nous l'avait visité, l'agent, il avait dit, vous allez voir, c'est des gens qui vivent dans un château, mais ils continuent à vivre comme dans un HLM. C'est comme ça. Ils n'ont pas. Il faut savoir. Le monde regarde la France. La France a un passé. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est devenu? La Grèce aussi a un passé. Mais quand vous regardez maintenant la Grèce, même la population, comment elle est devenue, même physiquement, quand vous voyez le statuaire grec, et puis comment vous les voyez maintenant aujourd'hui, il y a une dégradation partout. Et dans l'Église de Jésus-Christ aussi, il y a une dégradation. Mais il ne faut pas que ça rentre dans nos cœurs. Nous, il faut qu'on soit digne, il faut que ça soit l'excellence. Mmh. Et il ne faut pas se laisser attrister par cette médiocrité, par cet esprit de rouspétance, de toujours se plaindre, de pleurnicher. Et puis quand il leur a donné la possibilité de faire, il n'y a plus personne, des trouillards. Voilà, des trouillards. Manque de foi. Ouais, il va y avoir des milliers de conversions, gna gna gna. Alors achetez-le, le château. On vous le laisse à un bon prix. Non, il n'y a plus la foi, là, d'un coup. Pshit, comme disait, comment ils appelaient? Chirac. Pshit. Vous vous rappelez, ils avaient fait rire la France entière. Mais c'est ça, la France. Hein. Ouais. Puis après, pchit, plus rien. Alors, ne soyons pas comme ça. S'il m'arrive quelque chose, si je décède là, en partant en vacances, selon leur prophétie, eh bien, rappelez-vous, c'est ma dernière prédication. Ne laissez pas l'esprit franchouillard rentrer dans vos cœurs. Il faut que ça soit l'esprit saint, l'esprit de Dieu qui vous mène toujours sur les hauteurs, qui vous mène toujours dans l'excellence, qui vous mène toujours dans le meilleur. Il ne faut pas cet esprit franchouillard qui se contente du médiocre, du moshtag, du meilleur marché, c'est minable, c'est sans foi, il n'y a pas besoin de foi pour vous comprenez ce que je veux dire? Si, pour faire quelque chose qui glorifie Dieu, il faut de la foi, c'est-à-dire il faut manifester quelque chose qui est au-dessus de notre capacité humaine. Et si c'est simplement quelque chose d'humain, il n'y a pas besoin de la foi. On peut dire au nom de Jésus tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas la foi, puisque tout le monde peut le faire. Vous avez des païens qui font 10 000 fois mieux. Alors nous avons le Seigneur Jésus. Donc, nous devons le montrer dans notre coin, dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas des râleurs, là, et puis soyez des gens courageux. Et je sais que vous l'êtes, vous l'avez manifesté, mais continuez, ne vous relâchez pas. Et puis, Dieu fait le tri. Amen. Dieu fait le tri. Alors maintenant, tenons-nous fermes et le Seigneur a une bonne délivrance en vue pour nous, que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Et puis vous, dans les églises, si vous rebellez contre le pasteur, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, partez, allez-vous-en, allez dans une autre église, mais ne vous incrustez pas là à semer la pagaille. Ça, c'est pas honnête, c'est pas bien, c'est pas clair. Si quelque chose ne va pas, sortez du milieu d'elle, la Bible dit. C'est tout. Sortez du milieu d'elle. Mais ne vous incrustez pas à mettre le bordel. Allez, il n'y a qu'un mot à dire. Il faut être fort soi-même. C'est pas bien, on se tire. Et c'est tout. C'est bien, on reste. On peut aider, et ben on aide. Mais on n'est pas là. Et dans les couloirs et aux portes. Ouais, t'as vu, elle a dit si, oui, t'as vu, là. Puis il n'a pas encore fait ça, puis on trouvera toujours des défauts. Et quand, je me rappelle, la sœur Camilla, quelqu'un lui avait dit, mais moi je ne vais plus dans les églises parce qu'il n'y a pas d'amour. Puis elle lui avait dit, en tout cas, c'est une chose est sûre, c'est quand tu y vas, il doit y en avoir encore moins. C'était bien envoyé, je trouve. Parce que c'est vrai, il y a toujours partout des défauts, des trucs. Mais soyons spirituels, soyons spirituels. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et que Dieu vous garde, et que tout se passe bien, et que nous puissions rentrer bientôt, et puis nous réjouir, nous montrer des belles photos de nos vacances. Voilà. Et priez pour nous, n'oubliez pas de prier pour nous. Amen. Amen. À bientôt.